Voilà, donc merci encore hein, pour l'invitation. Et donc, en guise d'introduction, juste parce qu'il est toujours temps encore de sortir, je ne vais pas du tout parler d'audition. Je vais beaucoup parler de cortex cérébral. Alors, le cortex cérébral, donc, et son développement sont le sujet principal de la recherche dans notre laboratoire. Et je dirais qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on pense que le développement du cortex, c'est très intéressant. Le premier, c'est la complexité du cortex. C'est-à-dire, quelque part, le cortex, c'est vraiment l'anti-modèle réductionniste par excellence, puisqu'il est, si on y réfléchit à deux fois, il est beaucoup trop compliqué pour y comprendre quoi que ce soit. Mais si on réfléchit à trois fois, c'est peut-être précisément pour ça qu'il est intéressant à explorer, en particulier dans la perspective de la biologie du développement. La question de base, c'est est-ce que ce sont les mêmes règles qui président à la mise en place de la structure la plus complexe du cerveau, sans doute la structure la plus complexe du monde vivant, en tout cas sur notre planète, ou bien est-ce qu'il y a des règles particulières qui ont émergé au cours de l'évolution pour permettre cette complexité, et en particulier une façon, disons, plus pragmatique de regarder cette complexité, c'est, j'espère que vous arrivez à voir le spot, c'est la diversité neuronale, puisque chaque aire corticale et puis chaque couche corticale, chacune, peuvent être considérées comme des populations de cellules nerveuses qui ont une identité propre, avec des inputs et des outputs qui leur sont spécifiques. Et donc, dans l'espèce humaine, si on multiplie le nombre d'aires par le nombre de couches, on arrive à certainement plusieurs dizaines, et si on tient en compte aussi le fait qu'il y a à la fois des neurones excitateurs et inhibiteurs, peut-être plusieurs centaines de neurones différents qui peuplent le cortex cérébral et qui permettent son bon fonctionnement, et en particulier la complexité de ses propriétés, grâce aux propriétés odologiques de ces neurones. Donc c'est la première question, comment est-ce qu'on arrive à cette complexité? Et puis la deuxième question intéressante pour le cortex cérébral, c'est sa divergence, donc sur le plan du développement, c'est sa divergence, puisque même lorsque l'on compare des espèces très très proches, comme le chimpanzé et l'homme, leur cortex cérébral non seulement présente des tailles relatives très différentes, mais aussi des tailles relatives d'aire corticale, de couche corticale et de diversité neuronale, et en l'occurrence, en allant de plus en plus vers la complexité quand on passe de l'ancêtre commun du chimpanzé et de l'homme vers l'homme plutôt que vers le chimpanzé. Donc comment est-ce que cette complexité-là aussi est apparue au cours de l'évolution? Elle est clairement apparue du fait de l'évolution des programmes développementaux du cortex cérébral. Donc ça, c'est l'autre sujet de recherche de notre labo, qui est évidemment intimement lié à celui de la recherche des mécanismes de développement de la complexité. Alors, comment est-ce qu'on étudie tout ça? Parce que c'est bien joli de dire que tout ça est passionnant, mais encore faut-il pouvoir l'étudier expérimentalement. Alors, le modèle de choix pour étudier le développement cortical, hein, comme vous le savez certainement tous, c'est la souris, parce que la souris est le modèle génétiquement modifiable, accessible à l'embryologie, et qui en même temps, contrairement à la plupart des autres modèles, a un cortex cérébral, parce que le cortex cérébral est spécifique des mammifères. Mais bien entendu, si une des questions, c'est comment est-ce qu'on en arrive au cortex humain, le modèle murin aura par définition des limites à un certain moment. Et donc même si on a appris énormément de choses, et de dizaines de laboratoires différents, en particulier des 15-20 dernières années sur le développement cortical grâce à ce modèle, quelque part on reste sur sa faim pour ce qui est de comprendre les développements humains. On peut aussi évidemment étudier the real thing, donc le cortex humain lui-même. Et là je dirais qu'il y a deux approches actuellement. Il y en a une qui est l'embryologie, un petit peu expérimental mais surtout descriptif, par exemple l'étude transcriptomique du cortex fœtal humain, quelque chose qui a été réalisé par de nombreux laboratoires au cours de ces dernières années, y compris par nous. Mais bien sûr là aussi on reste sur sa faim puisque c'est une étude avant tout descriptive. L'autre approche un petit peu plus fonctionnelle, c'est l'approche génétique. Elle consiste à étudier quels sont les gènes qui sont mutés et associés à des phénotypes qui correspondent à des altérations du développement cortical, mais là aussi on peut rester sur sa faim, en tout cas en tant que biologiste du développement, puisque les mécanismes qui vont du gène jusqu'au phénotype, cela nécessite des modèles expérimentaux, et ces modèles expérimentaux sont extrêmement difficiles à réaliser pour des raisons essentiellement éthiques et logistiques sur du tissu fœtal humain, qui peut être utilisé pour certaines études, mais évidemment de façon très très peu fréquente. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé depuis bientôt 10 ans à une alternative que sont les cellules souches pluripotentes pour essayer d'étudier le développement cortical. Et c'est vrai, quand on a commencé ce projet, je dirais que rien en fait n'était connu quant à la possibilité de réaliser ce genre d'études. Alors, je ne sais pas trop quel est votre background, mais ça vaut la peine peut-être de rappeler très brièvement ce que sont les cellules souches pluripotentes. Les cellules souches pluripotentes sont des cellules caractérisées par la capacité de générer n'importe quel type cellulaire de l'embryon et d'autre part un auto-renouvellement à peu près infini. Bien sûr, il n'est pas infini, on ne peut pas dire qu'elles sont immortelles, mais pour vous donner un exemple, nous travaillons avec des lignées de cellules embryonnaires souches, murines ou humaines, dont certaines ont été générées il y a 15 ans, celles de souris il y a 20, parfois 25 ans, et si elles sont cultivées convenablement, elles conservent ces propriétés. Donc en tant que lignées, elles ne sont peut-être pas immortelles, mais elles sont quand même de très 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 longue vie. Mais d'autre part, ça c'est peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister, alors, c'est que les cellules embryonnaires souches peuvent être les cellules souches pluripotentes peuvent dériver de deux façons. La première, la plus classique, c'est à partir d'embryons très précoces que l'on met en culture dans des conditions particulières qui vont faire que les cellules de la masse interne du blastocyste conservent leur pluripotence et en même temps acquièrent la capacité d'autorenouvellement qu'elles n'ont pas en fait dans la masse interne du blastocyste. Autre option que vous connaissez certainement aussi, c'est la reprogrammation de cellules adultes et la génération de cellules dites IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, par la surexpression d'une série de facteurs qui, en fait, justement, sont présents dans ces cellules embryonnaires souches dont je viens de parler. Mais dans les deux cas, que ce soit les cellules induites ou que ce soit les cellules embryonnaires, je crois que c'est important de retenir que dans les deux cas, ce sont des outils de laboratoire, des lab artifacts, dans les deux sens du terme, dans la mesure où les cellules souches embryonnaires n'existent pas dans la nature. Si elles existaient dans la nature, on ne serait pas là, puisque la masse interne du blastocyste, dès qu'elle est générée, elle va devenir un embryon et puis finalement un organisme adulte, alors que les cellules souches embryonnaires, elles, dans leurs conditions de culture, elles restent pluripotentes et elles restent indifférenciées et elles restent capables d'auto-renouvellement. Je crois que c'est important à retenir pour la suite, parce que ça pose évidemment une série de questions quant à leur utilisation et la signification de ce qui peut ressortir de leur étude. Bon, cela dit, cette double capacité en fait évidemment un outil très très prometteur et je dirais que voilà, les promesses commencent tout doucement à être rendues, mais je crois que ça mettra encore quelques dizaines d'années avant qu'on puisse vraiment faire le bilan de l'intérêt en particulier clinique des cellules embryonnaires souches ou des cellules induites pluripotentes. Mais on peut évidemment imaginer de les utiliser alors soit pour modéliser des aspects du développement humain, c'est surtout de cela dont je vais vous parler, pour modéliser des aspects plus translationnel, que ce soit modélisation de maladies ou de traitement, j'en parlerai brièvement également, et puis aussi, et pour le cerveau, je dirais que c'est peut-être à beaucoup plus long terme, dans le cadre de thérapies cellulaires de remplacement. Donc la question de départ qu'on s'est posée au laboratoire, c'est comment passer de cellules souches pluripotentes à des cellules du cortex cérébral. Et la question que je viens de poser, je l'ai formulée de cette façon-là, je n'ai pas posé la question est-ce qu'on peut générer des cellules corticales à partir de cellules pluripotentes ? Parce qu'a priori, puisque ces cellules sont pluripotentes, la réponse elle est oui. Ces cellules sont capables de générer n'importe quelle cellule, dont les cellules du cortex. La question c'est comment y arriver, et comment y arriver en récapitulant les événements qui correspondent au développement in vivo, puisque l'idée, ce n'est pas nécessairement dans un premier temps de générer ces cellules pour le plaisir ou la nécessité de les générer, mais plutôt pour modéliser le développement du cerveau. Et donc, ce faisant, on a évidemment essayé de et donc, je vais rapidement vous parler de parce que la plupart de tout ça est publié, avec quelques données non publiées, je vais rapidement vous guider là-dedans. Comment est-ce qu'on a essayé de modéliser la corticogénèse in vitro à partir de cellules pluripotentes, à la fois de souris et humaines? Et donc, comment est-ce qu'on a essayé, finalement, de passer à travers toutes ces étapes très complexes du développement cérébral? Combien de cela peut être recréé dans la boîte de culture ou au-delà? C'est un peu la question qu'on s'est posée. Et c'est vrai qu'à l'époque, je dirais qu'on était vraiment en droit d'être très sceptique par rapport à la capacité de récapituler tout ça. Et ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que finalement, on y parvient, peut-être pas parfaitement, mais dans une mesure que je trouve encore aujourd'hui assez surprenante d'efficacité. Alors, la façon dont on a travaillé, c'est essayer de suivre, en fait, et d'être guidé par les étapes précoce en particulier du développement in vivo, puisque l'idée c'était de générer un modèle de développement. Et en particulier, les étapes, elles sont indiquées ici, mais il y en a deux sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est que au cours du développement normal, les cellules non neurales deviennent neurales, essentiellement, sous ce processus d'induction neurale, essentiellement dans un processus par défaut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cellules deviennent neurales en absence de facteurs extrinsèques comme les BMP, les FGF, les WNT, etc. Et en fait, ce sont des molécules, des protéines inhibitrices de ces facteurs morphogènes qui sont les inducteurs neuraux. Ce sont des découvertes faites il y a une vingtaine d'années, notamment par Alimati Brevanlou, Doug Melton et d'autres, et qui donc ont proposé de façon très provocatrice que le tissu neural, il émerge par défaut de façon intrinsèque. C'est quelque chose qui a été très largement confirmé dans tous les modèles étudiés depuis lors. Deuxième chose qu'on sait en général un peu moins, c'est que les cellules ainsi générées, elles ont en fait une identité antérieure sur le plan régional du cerveau. Elles correspondent en fait au tissu du forebrain, du prosencéphale. Et donc c'est avec cela, donc comme si ce processus intrinsèque qui a lieu in vivo, en l'absence de facteurs extrinsèques, non seulement produit des cellules neurales, mais en fait des cellules neurales qui sont justement les cellules à l'origine, notamment en tout cas, du cortex cérébral. Et donc c'est avec cette idée très simpliste qu'on s'est dit que pour récapituler la corticogénèse à partir de cellules souches pluripotentes, il fallait réduire au maximum la complexité des conditions de culture. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc bon, là, je vais résumer beaucoup de travail en une dia. Ce qui se passe, c'est que quand on prend des cellules humaines ou de souris et qu'on les met en présence d'un milieu de culture qui ne contient pas de sérum, pas de morphogène extérieur, qui contient, éventuellement, des inhibiteurs de morphogène, par exemple Noggin pour la voie BMP ou Dicop pour la voie WNT, eh bien, on obtient une population de cellules qui sont en large majorité des cellules neurales, mais qui en plus ont une identité de prosencéphale, et dans les cellules humaines en particulier, ça c'était tout à fait inattendu, ça a été confirmé par très nombreux laboratoires, en fait l'identité prédominante par défaut, c'est celle de progéniteur cortical et de progéniteur des neurones pyramidaux, et ça c'est la deuxième chose qu'on a observée en fait dans la boîte de culture, dans ces conditions où on n'apporte rien aux cellules, c'est que ces progéniteurs corticaux, une fois générés, eh bien, ils sont capables, de façon séquentielle, de générer des neurones dont l'identité moléculaire correspond aux neurones des six couches du cortex cérébral. Donc raison pour laquelle on a appelé ça une corticogénèse intrinsèque, ceci ne voulant pas dire que tous ces mécanismes ici sont cellulaires autonomes, mais qu'en tout cas ils sont autonomes par rapport au lignage de ces cellules et autonomes, je dirais, par rapport à la boîte de culture, puisque l'expérimentateur, lui, il observe simplement ce qui se passe hein, par boutade. Je dis que ce protocole, il a bien marché, parce qu'on était particulièrement feignant pour ne rien mettre au point et simplement voir ce qui se passe naturellement, entre guillemets, au cours du développement. Ça, c'est le premier message important. Deuxième message important pour revenir au problème de l'évolution et de la divergence, c'est que cette même observation peut être faite chez la souris et chez l'homme, mais si l'on compare la corticogénèse chez l'homme et la souris, elles suivent des lignes de temps qui sont complètement différentes. Plus de 3 mois pour générer tous les neurones à partir de cellules humaines, de l'ordre d'une semaine à partir de cellules de souris. Et en fait, ces timings correspondent, presque miraculeusement, j'aurais envie de dire, au timing in vivo, où en gros, hein, c'est un peu plus d'une semaine, partant de 10 jusque vers la naissance, qu'on génère l'ensemble des neurones chez la souris, dans le cortex cérébral, et c'est un peu plus de 3 mois également de neurogénèse qui a lieu in utero dans l'espèce humaine, et précédée dans les deux cas d'une période d'amplification des cellules souches, des cellules neuroépithéliales du cortex, qui est très rapide chez la souris, de l'ordre d'un jour ou deux, alors qu'elle met plus de 3 semaines dans l'espèce humaine. Donc, en fait, ce qu'on observe ici correspond donc assez fort, assez bien, à ce que l'on observe in vivo, suggérant donc ce processus intrinsèque qui génère finalement quand même quelque chose de relativement compliqué avec ces neurones correspondant aux différentes couches, suivent un programme qui est néanmoins spécifique d'espèce et qui suit un timing bien précis et qui a certainement... donc qui pose évidemment la question de quels sont ces mécanismes intrinsèques. Dernière chose sur laquelle je voudrais insister, on génère sur le plan des neurones dont les marqueurs moléculaires correspondent aux 6 couches, mais ces neurones ne sont pas établis en couches. Il n'y a pas de cytoarchitecture dans ce modèle. D'accord ? Donc, par rapport à, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les organoïdes, dans lequel il y a un certain niveau de cytoarchitecture. Dans ce modèle réductionniste-ci, tout est en 2D, en 2 dimensions. Et je dirais que c'est assez intéressant sur le plan de la biologie du développement parce que ça suggère qu'en tout cas une partie de la complexité et de la diversité neuronale ne nécessite pas cette cytoarchitecture. La cytoarchitecture est cependant très nécessaire pour d'autres aspects, mais on a ici une espèce de vision par l'absurde d'un développement simpliste, dirait-on, et réductionniste, pour faire plus chic, du développement cortical. Alors ici, quelques données pour vous illustrer un peu ce que je viens de vous expliquer. Première donnée, c'est la comparaison entre cellules humaines et souris de cette phase de prolifération des progéniteurs avant de générer des neurones. Vous voyez ici, chez la souris, qu'en 3 semaines, c'est 20 jours de culture, l'essentiel de la boîte de culture est rempli des neurones corticaux qui ont été générés. Si vous observez l'expérience en parallèle, réalisée en même temps, avec les mêmes conditions de culture, mais cette fois-ci à partir de cellules souches humaines, ben vous voyez qu'après 3 semaines, voilà les 5 neurones qui ont été générés au même moment, parce que la neurogénèse ne commencera véritablement que par la suite. Donc, c'est une façon de vous illustrer à quel point les deux systèmes sont comparables, mais selon une ligne de temps différente, et fort intrinsèque, puisque lorsque l'on mélange des cellules humaines et de souris dans la même boîte de culture, c'est ce que vous voyez ici, et qu'on les laisse 3 semaines ensemble, eh bien vous voyez que les cellules vertes qui sont humaines sont négatives pour ce marqueur rouge neuronal, et les cellules qui ne sont pas vertes, qui sont murines, elles sont à peu près toutes positives pour le marqueur neuronal. Donc les cellules vertes humaines continuent à s'amplifier, alors que les cellules murines sont toutes différenciées. Donc, cette horloge spécifique d'espèce est maintenue à ce niveau. Autre façon de l'illustrer, la génération des neurones, vous voyez les marqueurs moléculaires correspondant aux 6 couches du cortex, donc ils sont générés séquentiellement, exactement comme in vivo, vous voyez ici la génération de neurones exprimant des marqueurs, des neurones pionniers, de la couche 6, de la couche 5, des couches 2, 3. La chose intéressante à noter, c'est non seulement donc, cette génération est séquentielle et que, comme vous voyez, elle met ici, dans ce cas-ci, 70 jours, 70 jours, comme on dit chez moi. En fait, il faudrait aller jusque 3 mois pour avoir le profil complet. Si on compare avec la souris, les couleurs sont différentes, mais la ligne de temps ici, vous le voyez, surtout, est complètement différente. On arrive, en fait, au résultat équivalent en à peu près 12 jours. Donc, même système, mais selon une ligne de temps complètement différente. Et dernier aspect pour illustrer cette ligne de temps spécifique d'espèce, vous voyez ici que ces neurones, une fois générés, peuvent maturer, établir des synapses les uns avec les autres, on va y venir dans un instant. Mais vous voyez ici qu'à l'échelle globale d'expression génique de ces neurones, si c'est des données de microarrays, ben, si on compare le développement in vitro, jour 0, ce sont des cellules souches, 24, 44, 72 jours, et qu'on compare avec des données microarrays de cortex humain, fœtal, à 9 semaines et à 19 semaines de gestation, vous voyez qu'après plus de 70 jours, on est en fait à mi-chemin entre 9 et 19 semaines de gestation. C'est-à-dire qu'on est très très loin en fait du développement final, mais on est en fait assez proche de la ligne de temps qui se déroule in vivo. Donc c'est un développement extrêmement lent, mais qui rappelle en fait de façon étonnante, celui qui a lieu in vivo. Et ça, c'est juste pour vous dire que les cellules ne sont pas apparemment bloquées à un stade donné, elles sont en fait capables, in fine, de générer des courants synaptiques, des potentiels d'action répétitifs, etc. Simplement, il faut attendre des temps considérables pour parvenir à ce niveau de maturation. Et des données de beaucoup d'autres laboratoires qui ont confirmé ceci indique aussi que si on regarde des neurones d'une autre identité que des neurones pyramidaux, qui sont les plus lents en fait de notre espèce, et qu'on regarde par exemple des neurones sensoriels périphériques, là, leur maturation est beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment une caractéristique de ces neurones corticaux humains. Alors pour vous illustrer l'importance de cette ligne de temps, etc., très rapidement, parce que c'est un tout petit peu hors sujet, je crois, mais juste vous illustrer à quoi ces modèles peuvent être utilisés pour mieux comprendre l'évolution et puis les maladies, en l'occurrence précoces du développement humain. On s'est intéressé à une maladie qu'on appelle la microcéphalie primaire, donc où les enfants atteints déjà avant la naissance ont une taille de tête et de cerveau, et en particulier de cortex cérébral, beaucoup, beaucoup trop petite. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette forme en particulier, ou ce gène qui s'appelle ASPM est muté, peu importe les détails ici, je ne vais pas parler de ça dans les détails, le message important ici, c'est que lorsque les mêmes mutations sont réalisées chez la souris, vous voyez qu'on observe une microcéphalie, mais qui est beaucoup plus légère que celle que l'on observe chez l'homme. Et de fait, les différents groupes qui ont étudié, y compris le nôtre dans le détail, ces souris, ont énormément de difficultés à observer le moindre phénotype, par exemple, de différenciation, d'apoptose, de troubles de prolifération ou que sais-je. Et les mécanismes donc, de cette microcéphalie restent pour cette raison très mal connus. Et donc pour cette raison, on s'est dit, au fond, peut-être qu'il y a des aspects spécifiques d'espèces qui correspondent à cette microcéphalie. Et donc on a implémenté les modèles de corticogénèse dont je viens de vous parler, mais partant cette fois-ci de cellules pluripotentes induites humaines qui ont été dérivées à partir de fibroblastes, qui ont été prélevées à partir de biopsies de peau de patients présentant ces mutations et qui, à ce moment-là, n'ont plus cette protéine ASPEM, qui est en fait une protéine centrosomale. Nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, juste vous illustrer une donnée, qui est qu'au cours du développement normal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant presque 3 semaines, très peu de neurones sont générés. Voilà les premiers neurones à être générés après 15 jours dans ce modèle, dans des cellules donc contrôle. Et voici la situation dans différentes lignées générées de différents patients présentant cette mutation. Donc en fait, un des phénotypes frappants que l'on observe dans ce modèle, c'est qu'il y a une différenciation précoce qui n'est pas observée chez la souris, ou en tout cas très difficilement, et qui n'a pas ce niveau, disons, quantitatif ici. Et qui, bien sûr, nous indique deux choses, je dirais. La première, c'est que donc il y a des phénotypes spécifiques d'espèces. Alors peut-être que le phénotype chez la souris est tellement subtil qu'on ne le voit pas, et que c'est le même. Et en fait, c'est ce qu'on pense, parce que les cellules que nous voyons ici, ce sont ces cellules qui s'amplifient, ces cellules neuroépithéliales, avant de générer des neurones. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles s'amplifiaient pendant près de 3 semaines dans l'espèce humaine, seulement pendant 1 jour ou 2 chez la souris. Donc si ce sont ces cellules-là qui sont atteintes en particulier par la mutation d'ASPEM, il est logique de penser que dans une espèce où cette amplification est plus importante, le phénotype final est plus important. Donc ce qu'on pense, c'est un modèle pour l'instant, on a encore beaucoup de travail à réaliser, les mécanismes aussi sous-jacents, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc on a l'ensemble de ces déficits très précoces qui ont pour étape ou pour résultat final cette taille du cerveau beaucoup trop petite. Donc ceci c'est peut-être pour vous illustrer, parce que je crois que c'est juste un premier exemple comme ça, que ces modèles, qui ne vont jamais remplacer les modèles animaux, bien sûr, je crois que la souris reste absolument essentielle pour comprendre le développement cérébral, et plein d'autres choses, mais c'est un complément intéressant pour ce genre de cas d'espèce qui ouvre peut-être une fenêtre sur une compréhension de l'évolution. Alors, on va passer au plus vif du sujet, si je puis dire, et passer de la boîte de culture au cerveau. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est passé au cerveau ? Tout simplement parce que dans la boîte de culture, même si on génère un certain degré de complexité, de diversité cellulaire, l'étude de la connectivité est virtuellement impossible, notamment parce qu'il n'y a pas de cytoarchitecture. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans des expériences de transplantation et on a bénéficié à cet égard, donc il y a déjà pas mal d'années, de l'aide et de la collaboration de Hassan Egaya, professeur à l'Université de Poitiers, qui est bien renommé dans le domaine de la transplantation des cellules corticales, que je connaissais par ailleurs et à qui on a proposé de jouer avec nous dans notre labo, mais cette fois-ci pas avec des cellules embryonnaires corticales, mais avec des cellules générées dans la boîte de culture. Je vais vous résumer un petit peu les premières choses que l'on a trouvées en faisant ça. Bon, donc on différencie dans la boîte de culture les neurones corticaux, on les transplante, et puis ça marche entre guillemets. Donc on génère des neurones pyramidaux intégrés ici, et ceci, ce sont des expériences chez la souris, et on observe des neurones qui ressemblent assez bien à des neurones pyramidaux matures après 3-4 semaines, ce qui correspond à la période de maturation des neurones endogènes. Ces neurones sont marqués à la GFP, on peut suivre leur projection, donc ça je pense que vous êtes familier avec ça, on peut suivre leur projection, ce qui a l'intérêt de pouvoir indiquer finalement quelle est leur identité d'air, puisque neurones de couche 2, 3, 4, 5, 6 ne vont pas aller aux mêmes endroits dans le cerveau, et aussi de couches, et les identités d'air aussi, puisque le cortex visuel ou auditif, par exemple, ne vont pas projeter dans les mêmes structures cérébrales. Alors, ce faisant, qu'est-ce qu'on a constaté ? D'une part, que ces neurones suivent les trajets des neurones endogènes, le corpus callosum, capsule externe, etc., et, in fine, innervent les cibles qui correspondent aux cibles du cortex endogène. Mais quelle est la spécificité de ces observations ? Ok, on voit des axones un peu partout, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, pour l'étudier plus en détail, une des expériences que l'on a faites, c'est de greffer à des temps différents, après différenciation, dans des souris, ici en l'occurrence des souris néonatales, des nouveau-nés souriceaux, en faisant l'hypothèse que puisque les neurones sont générés séquentiellement, en prenant les progéniteurs à des moments différents, on va générer des neurones d'identité différentes qui vont avoir des profils de projection différents. Typiquement, les neurones de la couche 6 vont aller dans le thalamus, les neurones de la couche 5 devraient aller dans le mésencéphale ou la moelle épinière, les neurones des couches superficielles restaient dans le cortex. Et bien, c'est ce qu'on observe. Donc, si on prend des cultures très précoces, ici jour 12 par exemple, et bien, l'essentiel de leur projection va être thalamique, comme les premiers neurones générés, et ainsi de suite. Si on prend les plus tardifs, vous voyez que là, on a un enrichissement des projections cortico-corticales, et entre les deux, ici, un enrichissement vers les projections vers le mésencéphale lorsque l'on prend des cultures à mi-chemin, si je puis dire. Donc, suggérant que le temps qui passe dans la boîte de culture, comme on le suppose in vivo, a un réel impact sur l'identité finale de ces cellules, jusque y compris leur projection dans le cerveau. Ça, c'est pour ce qui est des couches. Alors, pour ce qui est des aires, ben là, on a eu une petite surprise, dont je dirais même encore aujourd'hui, on n'a sans doute pas l'interprétation finale, mais les données, en tout cas, elles sont là. C'est que lorsque l'on examine où les neurones essentiellement vont préférentiellement dans le cerveau, ben en fait, ici je résume très fort les données, mais elles vont essentiellement dans les régions visuelles du cortex, dans les parties du cerveau qui correspondent aux cibles du cortex visuel, par exemple cortex visuel contralatéral, corps genouillé latéraux et ventraux, colliculus supérieur. Et voilà, ici vous voyez les quantifications, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ceci pour dire que ce n'est pas juste un truc comme ça, mais c'est quelque chose qu'on observe maintenant depuis de nombreuses années dans tous les modèles qu'on étudie. Les cellules dérivées dans la boîte de culture semblent avoir, sur le plan de leur projection, une identité de cortex occipital. Et pas seulement sur le plan de leur... Donc voilà, hein, donc, et ceci, même si on les transplante dans le cortex moteur, elles ne sont pas respécifiées en cortex moteur, elles vont projeter dans les cibles du cortex visuel. Et ceci est vrai pour leur projection, mais en fait, ceci est vrai dans la boîte de culture et par la suite aussi au niveau moléculaire. Donc, si on regarde des marqueurs, comme par exemple ici les facteurs de transcription coupe TF1 and 2, qui sont préférentiellement exprimés dans le cortex occipital in vivo, eh bien, ils sont essentiellement présents dans tous les progéniteurs avant la transplantation. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau moléculaire, ces cellules ressemblent surtout à du cortex occipital, et puis quand on les transplante également, suggérant, c'est un peu provocateur évidemment, qu'une partie, en tout cas de l'identité d'air, eh bien, elle peut émerger in vitro sans influence du reste du cerveau. Et vous connaissez certainement, hein, il y a de très nombreux laboratoires qui ont travaillé là-dessus, en particulier au cours des 10-15 dernières années. Il y a de nombreux mécanismes à la fois intrinsèques et extrinsèques qui font que les aires corticales deviennent ce qu'elles sont à partir de la table rase du primordium cortical. Ici, on vient avec une donnée eh bien, où, par défaut, entre guillemets, des cellules souches pluripotentes générant des cellules corticales, ces cellules corticales vont adopter essentiellement une identité limbique et visuelle, en fait, mais donc essentiellement occipitale. Alors, ça ne nous dit pas comment les aires corticales se développent in vivo, mais ça nous montre en tout cas que par défaut, elles peuvent devenir quelque chose d'assez compliqué in vitro. Et ça, je crois que c'est une leçon intéressante. Et vous allez voir dans un instant que ça a des applications directes. Donc, c'est le je ne sais pas si vous, au fond, vous êtes censé m'interrompre, si vous avez des questions, ou bien tout ça vient à la suite. C'est un peu l'impression. EMX2 est exprimé spontanément. Comment ? EMX2 également, oui, oui, tout à fait. Et donc, puisque tu me permets de faire une pause dans mon truc, de façon assez intéressante, on a examiné, je n'ai pas les données ici malheureusement, mais la cinétique d'apparition de marqueurs du cortex cérébral génériques, on va dire, comme EMX1 par exemple, et de marqueurs de cortex occipital comme EMX2 ou les coupes TF. Et en fait, on a fait ça surtout chez la souris, ils apparaissent le même jour. Donc comme si quand on génère les cellules corticales, elles ont déjà cette identité occipitale. Donc ce qui est assez intéressant sur le plan biologique, même si on peut arguer, je suis prêt à l'accepter, que c'est un artefact de laboratoire, en attendant c'est ce qu'on observe, sur le plan pratique, évidemment, ça pose un problème, et qui est que jusqu'à présent, tous nos efforts pour changer l'identité de ces cellules, pour devenir motrices, par exemple frontales, se sont révélés très difficiles, parce qu'on doit, on doit modifier leur identité de cellules corticales, mais sans les rendre non corticales. Donc, par exemple, on pourrait leur rajouter des facteurs FG et FUIT, ou inhiber la voie Wnt, mais si ce n'est que si on fait ça, on peut changer leur identité, et là-dessus, elles perdent le MX1, par exemple. Donc ça, c'est... Et de nouveau, on n'est pas les seuls à avoir fait ces observations. Lorenz Studer, par exemple, a des observations non publiées du même genre. Donc, il suggère que dans cette voie par défaut, ces cellules ont essentiellement une identité occipitale. Ça répond à ta question? Il n'y en a pas d'autres? Tout est clair? Comment?
À l'heure actuelle, on ne sait pas préparer les cellules qu'après transplantation, elles viennent dans une autre aire.
Alors, on essaye ça avec beaucoup d'acharnement, mais pour faire simple, je dirais non.
Même avec Paxis?
Comment?
Même avec Paxis, antérieurement.
Mais même avec Paxis, parce que... Oui, donc ça, c'est le truc qu'on n'a pas essayé. On a peut-être été... voilà, j'ai peut-être été trop... On aurait peut-être dû le faire, on ne l'a pas fait, c'est de surexprimer des facteurs de transcription plutôt que des morphogènes. On pourrait penser à Paxis, on pourrait penser à BCL6, on pourrait penser à d'autres facteurs. On ne l'a pas essayé. On l'a pas essayé. Donc ça reste un challenge dans le domaine. Donc il y a plein de groupes qui essayent de faire ça, bien entendu. Dans la littérature, il existe des articles qui montrent des projections frontales. Mon interprétation. Donc, il y a un truc peut-être intéressant à discuter très rapidement de ce point de vue-là. Enfin, je ne sais pas si on a le temps de digresser là-dessus, si ça vous intéresse. Et ça me permet d'ailleurs de revenir sur des données que moi j'ai toujours trouvées très inspirantes, de nouveau de Hassan et Gaillard, donc, qui sont des études du siècle dernier, mais qui restent d'une grande actualité, je pense. Et où donc ce que Afi avait fait, c'est toujours en rapport avec votre question. Elle a fait des greffes hétérotopiques où elle prend soit du cortex embryonnaire frontal, soit occipital, et elle va le greffer soit dans du cortex frontal, soit occipital, et poser la question du devenir de ces transplants. Okay, un peu comme les expériences encore plus anciennes de Sue McConnell sur les aires corticales, pour ceux qui connaissent. Et donc, qu'est-ce qu'elle a observé ? Ben que si on prend donc. Ici, c'est l'expérience chez le rat. Les rats E16, on met du frontal, ça projette comme du frontal. Bon, ça, c'est juste pour montrer que la greffe fonctionne. Mais si on met de l'occipital dans du frontal, eh bien, en l'occurrence, ça va projeter comme de l'occipital. Comment ? Par contre, si on prend des cellules plus précoces, voilà, on y est. Merci Alain. Si on prend des E12, là, quand on met du frontal dans le frontal, ça reste frontal. Si on met l'occipital dans le frontal, ça devient frontal. Okay, donc il y a une fenêtre temporelle où les cellules progénitrices peuvent être respécifiées en fonction de où elles ont été greffées. Et donc il y a un ou deux papiers qui montrent, en partant de cellules embryonnaires souches et générer des cellules neurales dont l'identité n'est pas terriblement bien caractérisée, je dois l'avouer, et puis transplantées, sont capables de générer après. Greffe dans le cortex frontal, dès que projection frontale. Mais mon interprétation est qu'elles n'ont pas été générées in vitro pour être frontales. Ce sont des cellules relativement mal spécifiées et qui donc sont devenues frontales parce que c'est là qu'on les y a greffées. Okay, et je crois que ça a une importance qui n'est pas purement, académique et de biologie du développement. Je crois que c'est un truc très important pour essayer de faire un jour marcher, si on y arrive, la réparation cérébrale dans le cortex cérébral. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Je ne vais pas d'ailleurs vous parler beaucoup de réparation cérébrale, mais plutôt, disons, des premières étapes pour y arriver. Je pense que le point d'interrogation ici est important à garder en tête. Donc, sur la base de toutes ces données, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passerait maintenant si on prend des souris adultes, ou jeunes adultes, 6 à 8 semaines, on fait une lésion, ici en l'occurrence en utilisant l'acide iboténique. Quelques jours après, on vient avec les cellules corticales de souris générées dans la boîte de culture dont je vous ai parlé. Et puis on attend ici, en l'occurrence, 3 mois, et on peut poser la question de l'intégration de ces cellules, etc. Puisque jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, c'est les transplantations dans des souris nouveau-nées. Hein. J'espère que j'avais été clair là-dessus. Et donc, à quoi tout ça va ressembler ? Bon, premier aspect important, le transplant survit. Vous voyez ici une reconstruction du transplant, vous voyez ici à quoi il ressemble en vrai. Il envoie en fait moins de projections que les transplants néonataux, mais il envoie quand même pas mal de projections, c'est toutes les petites barres noires que vous voyez ici à travers l'ensemble du cerveau. Tous les neurones se sont différenciés dans le transplant. Vous voyez ici des vraies images, si je puis dire. Donc vous voyez qu'il y a de très nombreux axones et de très nombreuses branches, ici en l'occurrence dans le striatum, dans le thalamus, dans le mésencéphale, dans le tronc. Vous voyez aussi des petits points qui ont envie qui ressemblent à des branches et des différenciations présynaptiques. Et de fait, si on fait la microscopie électronique, de nouveau en identifiant les cellules avec un anticorps anti-GFP spécifique des cellules transplantées, on voit qu'il y a à la fois des synapses morphologiques, en tout cas, du transplant vers l'hôte, de l'hôte vers le transplant. Et la plupart de ces fibres, de façon assez étonnante de mon point de vue, sont aussi myélinisées, par l'hôte, qui remyélinise en quelque sorte ces jeunes axones après la pousse. Alors, de nouveau, quand on voit ce genre de données, ok, on voit des axones qui poussent dans le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois que la question de la spécificité, c'est vraiment une question essentielle dans ce genre d'expérience. Et là, pour adresser cette question, ce qu'on a fait, c'est des expériences de traçage axonal pour poser la question finalement de quand les neurones vont dans le thalamus ou dans le mésencéphale, est-ce que ça veut dire quelque chose sur leur identité? Et on a essayé en fait de tester dans quelle mesure les projections de ces neurones transplantés, le type de projection est ici en l'occurrence correspondant à l'identité de couche, donc allant soit chez le thalamus, soit au thalamus qui correspond à la couche 6, soit dans le mésencéphale qui correspond essentiellement à la couche 5, est-ce que c'est corrélé avec des marqueurs moléculaires d'identité d'air? Ici, en l'occurrence, un marqueur qui s'appelle C-type 2, qui est spécifique surtout des neurones de la couche 5, FOXP2, surtout des neurones de la couche 6. Donc ça, c'est ce qui vous est illustré en regardant les barres blanches. Vous voyez que si on injecte dans le mésencéphale, on a essentiellement des neurones marqués de façon rétrograde qui expriment C-type 2. Si on injecte dans le thalamus, c'est l'effet inverse. On observe essentiellement des neurones exprimant FOXP2, le marqueur de la couche 6. Pardon, c'est là le blanc qu'il faut regarder. Si on regarde maintenant la même expérience dans des cellules transplantées, dans des souris transplantées, excusez-moi, et qu'on regarde dans le transplant, vous voyez ici les vraies données, avec des cellules transplantées, l'expression de marqueurs et l'expression, ou plutôt la présence de marqueurs rétrogrades, et vous voyez qu'on observe en fait le même pattern. Donc, préférentiellement, les neurones transplantés qui ont été dans les encéphales expriment ces types 2, ceux qui vont dans le thalamus exprime FOXP2. Donc suggérant que là où ont été les axones est indicatif en fait de l'identité moléculaire de ces neurones et que donc les neurones qui ont été à un endroit ou à l'autre dans le cerveau adulte y ont été potentiellement selon un programme développemental physiologique entre guillemets, même si bien entendu c'est une situation complètement différente puisque je vous le rappelle, on injecte dans des souris adultes même si elles ont subi une lésion. Autre question de la spécificité, c'est la question de la spécificité d'air de nouveau. Et donc, comme je vous l'ai dit, par défaut, a priori, on s'attend à ce que ces cellules aient une identité d'air occipitale. Et de fait, c'est ce qu'on observe, y compris après transplantation. Vous voyez ici d'autres gènes, on voit MX2 ici, dont on a parlé tout à l'heure, BCL6, SP8. En gros, le profil des cellules transplantées ressemble bien davantage à celui de cortex occipital qu'à celui de cortex frontal. Est-ce que c'est corrélé pour ce qui est des projections? Ben oui. Donc, je ne vais pas vous bombarder avec toutes ces données, c'est un peu difficile et indigeste, mais prenons simplement comme exemple les profils dans des noyaux du thalamus. Eh bien, on constate qu'on observe des fibres dans ces trois structures qui correspondent à du cortex limbique ou visuel, les corps genouillés et le latéral dorsal, aucune fibre ou très très peu dans le thalamus somatosensoriel ou auditif ou moteur. Donc les projections, de nouveau, ressemblent à du cortex visuel. Mais dans ce cas-ci, on a transplanté dans du cortex visuel qui a été lésé. Donc vous pourriez me dire, ok, ici tu observes des projections visuelles, mais finalement c'est peut-être simplement parce qu'on les a transplantées dans du cortex visuel. Donc pour adresser cette question de spécificité, ça c'est juste une expérience de plus qui vous démontre donc, qu'on observe des neurones rétrogradés tracés à partir du thalamus visuel dans le transplant, mais pas à partir du thalamus moteur. Donc c'est un profil de projection qui est étonnamment spécifique. Voilà, ça c'est la même chose, vous revoyez ici le même type d'expérience, où on voit donc que le gros des résultats, où le gros des projections correspond à des projections du cortex visuel. Mais donc, puisqu'elles ont été greffées dans le cortex visuel, est-ce que c'est l'identité de l'hôte qui est la cause de ces observations? Et donc, pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, c'est des lésions et puis des greffes dans du cortex moteur. Et en fait, les données sont bien différentes. Si je vous montre juste un exemple, vous voyez en fait qu'on n'observe pas de projection dans les cibles du cortex moteur. On en observe très très peu en fait ailleurs également. En fait, essentiellement, pour résumer ces données rapidement, on n'observe virtuellement pas de projection sous-corticale lorsqu'on transplante des cellules dérivées à partir de cellules embryonnaires souches par défaut dans le cortex moteur lésé, alors que l'on observe quand même pas mal de projections sous-corticales qui correspondent essentiellement à une identité visuelle lorsqu'on le fait dans du cortex visuel qui a été lésé. Qu'est-ce que ça suggère ? Ça suggère fortement de nouveau que c'est ce qui s'est passé dans la boîte de culture qui compte et qui leur donne aux cellules transplantées la compétence de réétablir certaines projections ou non. Alors bien sûr, on pourrait dire tout ça est de plus en plus artificiel, on prend du cortex lésé, adulte, qui n'a jamais vu de neurones embryonnaires, et ces neurones embryonnaires, en plus, on les a générés dans la boîte de culture, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de si. Donc ce qu'on a fait aussi, en collaboration à nouveau avec Afsane Gaillard, c'est des expériences, certaines d'ailleurs, elles les avaient déjà publiées, puis on en a fait d'autres avec nous, où on a greffé des cellules de cortex embryonnaire. Et donc, vous voyez ici les données d'AFI où elle a greffé du cortex embryonnaire moteur dans du cortex moteur lésé chez l'adulte et où, en fait, on observe des projections motrices. Donc, c'est, en fait, l'expérience miroir de celle-ci. Et, de façon complémentaire et à l'inverse, si on les transplante dans le cortex occipital, on n'a pas de projection sous-corticale ou très très peu quand on amène le moteur dans le visuel. Donc ça suggère en fait que chaque fois que c'est hétérotopique, pour le retenir facilement, il n'y a pas de projection sous-corticale. Quand c'est homotopique, sur le plan de la lésion et du site de transplantation, on a une pousse qui est spécifique de la zone qui a été lésée et qui est aussi, par définition, spécifique de l'identité d'air des cellules qu'on a transplantées, puisque c'est homotopique. Et donc, suggérant, la conclusion n'est pas là, elle est ici en fait, mais que pour observer un réestablissement des projections, il faut un match, il faut une correspondance relativement importante, relativement précise, entre l'identité des cellules qui ont été transplantées et celles qui ont été endommagées. Et donc, pour revenir à la question du cortex moteur, ça montre donc évidemment, ces données indiquent, je crois avec force, que si on veut un jour pouvoir réétablir des projections de cortex moteur après, par exemple, un accident vasculaire cérébral ou que sais-je, je ne sais pas si ça marchera un jour, mais on peut en tout cas y penser, il faut d'abord pouvoir respécifier ces cellules, puisque ça semble être la seule façon de le faire. Si on prend des cellules qui ont été spécifiées dans autre chose, on ne va pas avoir de respécification miraculeuse dans les cellules adultes, et ça va un petit peu à l'encontre de pas mal de littérature des transplantations qui sont sorties, je dirais, au début de ce siècle, et qui suggéraient que toute une série de cellules souches, même non neurales, étaient capables de recréer des projections correspondant au site qui a été lésé dans le cerveau. Je pense que beaucoup de ces données, sans doute, n'étaient peut-être pas tout à fait correctes, voire artefactuelles du fait de fusion cellulaire. Et par exemple, nos collègues qui sont beaucoup plus avancés, qui travaillent sur la maladie de Parkinson et les neurones dopaminergiques, clairement vont dans cette voie-ci, où ils essayent, dans la boîte de culture d'abord, de spécifier au maximum, avec un degré de pureté maximum, un degré de fidélité maximum, les cellules générées avant la transplantation, pour espérer que ces transplantations fonctionnent. Puisque dans les transplantations de maladie de Parkinson, comme vous vous en souviendrez peut-être, des expériences avec de la substance noire embryonnaire fœtale, y compris cliniques, des essais et des thérapeutiques cliniques ont été réalisés, en particulier par Anders Björklund, de Lund, etc., dans les années 1990. En partie, ça a marché, en grande partie, ça n'a pas marché, et de nouveau, le consensus aujourd'hui, c'est pour cette même raison que les cellules qui étaient transplantées n'avaient pas la bonne identité. Donc cette question de l'identité, et bien sûr, si on pense au cortex auditif, c'est la même chose, je crois qu'elle est absolument clé pour arriver à espérer un certain degré de rétablissement des connexions. Alors bien sûr, rétablissement des connexions, qui est le terme... Oui, vous avez une question ?
Oui, parce que vous évoquez beaucoup les projections à la structure supérieure.
Oui.
Oui. Est-ce que vous observez aussi des projections cortico-corticales ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, on observe des projections cortico-corticales. Je résume très très fort les données ici parce qu'elles ont été publiées là, il y a un peu plus d'un an. Vous pouvez aller voir où là on a tout regardé. Donc typiquement, par exemple, en contralatéral, l'essentiel des projections vont vers le cortex occipital et pas pleurostralement. Comment ? Ce qui veut dire qu'on a une identité correspondant à toutes les couches. Oui, de nouveau, absolument. Oui. Oui ? Oui, très, oui, c'est une bonne question. Donc de nouveau, parce que j'ai toujours peur d'être trop long, je vais un peu trop vite, mais les expériences que je vous ai montrées, quand je les montre aux étudiants de master, une fois que tout est fait, je leur dis, mais en fait tout ça n'a aucun sens, parce que si on greffe les progéniteurs précoces et qu'ils sont capables de continuer à proliférer dans le transplant, ils vont aussi générer les neurones tardifs. D'accord ? Donc en fait, cette expérience n'a aucun sens. Pourtant, c'est quand même le résultat qu'on obtient et qui correspond superficiellement à l'idée qu'on s'en fait. Alors, l'interprétation qu'on en a, qui je crois est correcte, c'est qu'en fait, quand on prend des cellules précoces, les neurones des couches profondes, qui sont greffés à ce moment-là, ils survivent très très peu. Et ce qui reste, en fait, c'est des neurones, ce sont des progéniteurs qui correspondent en fait aux progéniteurs tardifs qui vont générer surtout des neurones des couches superficielles. Et conversement, si on prend, par contre, les... En fait, c'est la même chose que les vieilles expériences de Sue McConnell de prendre du cortex fœtal, enfin embryonnal, non, néonatal précoce de furet, correspondant aux couches profondes ou correspondant aux couches superficielles, et puis les transplanter, et on observe soit que les neurones s'implantent dans les couches superficielles ou dans les couches profondes. En effet, et en fait, c'est ce qu'on observe. Donc, en fait, il y a plus de projections cortico-corticales que sous-corticales. Voilà. Maintenant, on pourrait le voir d'une autre façon et se dire, évidemment qu'il y a plus de cortico-corticales, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour ces transplants d'envoyer des axones dans le corps calleux que de descendre, enfin, a priori, moi, si j'étais un axone, capsule interne, pédoncule, etc., c'est long, quoi. C'est long et compliqué. Voilà. D'ailleurs, quand vous regardez la littérature, la plupart des expériences de transplantation, il y a toujours un peu des axones encore calleux. Enfin, je crois que c'est une zone permissive. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste pas trop sur la signification réelle de ça, parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Mais, pour en revenir à votre question, oui, en ciblant le timing des cellules, ça a un impact sur le type d'identité de couche. Mais néanmoins, si on prend des cellules précoces, je dirais au bon timing, on arrive à la fois à avoir des neurones précoces et des neurones tardifs qui arrivent par la suite. Alors, je n'aurai pas le temps de le montrer, mais dans les transplantations de cellules humaines, dont je vais parler dans un instant, c'est encore plus frappant, puisque là, on transplante des progéniteurs. C'est très difficile de transplanter des neurones parce qu'ils meurent. Et là, en fait, c'est 2 mois, 50-60 jours après la transplantation, que les neurones superficiels sont générés et vont se mettre à faire pousser des axones, alors que les neurones précoces, des couches profondes, ont déjà été générées depuis 2 mois. Ok ? Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, alors, dernier petit aspect. Ah oui, c'est ça, j'avais commencé ma phrase sur le rétablissement. Donc, le rétablissement, je dis rétablissement plutôt que réparation, parce que réparation, ça voudrait quand même dire que ces souris ont un déficit et puis que ce déficit est corrigé. On n'est absolument pas là dans le modèle dont je vous parle. Par contre, on réétablit des projections qui n'étaient plus là. Et donc, ce qu'on a aussi réalisé, ici en l'occurrence, en collaboration avec Marianne Benoît-Marant, également de Poitiers, c'est l'expérience dont je suis le premier à admettre qu'elles sont, je dirais, une toute première étape dans la caractérisation fonctionnelle de ces neurones. Et maintenant, on essaie d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Mais donc, ce qu'on a réalisé, c'est des enregistrements dans le transplant, après stimulation visuelle, donc par enregistrement extracellulaire, et puis identification des cellules par injection de neurobiotine. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'après stimulation visuelle, les cellules transplantées répondent à cette stimulation visuelle de la même façon que les cellules transplantées, de la même façon voulant juste dire que leur fréquence de potentiel d'action augmente. Et à ce stade, c'est tout ce qu'on peut en dire. Donc évidemment, Ceci est une belle première étape pour se dire que ces cellules reçoivent effectivement des projections correspondant au système visuel. La question d'ailleurs est, est-ce qu'elles sont thalamiques ou cortico-corticales ? J'aurais tendance à croire qu'elles sont plutôt cortico-corticales, mais bon, parce qu'il y en a beaucoup plus que des thalamo-corticales, mais qui sait ? Bien sûr, la vraie question vraiment excitante maintenant, c'est au-delà du potentiel d'action et au-delà de allumer ou atteindre la lumière, il y a à quoi ces cellules sont-elles sensibles ? Est-ce qu'elles ont des préférences d'orientation, par exemple ? Est-ce qu'elles ont des préférences contralatérales, ipsilatérales ? Est-ce que, aussi sur le plan comportemental, elles peuvent finalement guider visuellement la souris ? Et donc ça, il y a un très joli papier qui est sorti récemment du groupe de Mark Hübner et de Magdalena Goetz, qui est sorti dans Nature il y a un mois ou deux, où elle a fait des expériences assez semblables, mais avec, sauf que le modèle de lésion est très différent. C'est un modèle beaucoup plus subtil où il tue quelques neurones, et puis elle transplante du cortex embryonnaire, donc ce n'est pas encore avec des cellules dérivées de cellules souches. Mais par contre, donc Mark Hübner étant un expert de la physiologie du cortex visuel, ils ont pu faire, avec de l'imagerie calcique en particulier, in vivo, la démonstration que les cellules transplantées ont en gros les propriétés électrophysiologiques des cellules hôtes. Bien sûr, il reste pas mal de cellules hôtes, mais les nouvelles cellules, quand on regarde leurs signaux G-CAM, en réponse, par exemple, à la préférence d'orientation ipsilatérale, contralatérale, etc., ont l'air de se comporter comme les cellules hôtes. Donc ça va quand même dans le même sens, c'est très encourageant pour nous, et on collabore d'ailleurs maintenant avec eux, dans l'espoir, avec les cellules embryonnaires dérivées de cellules souches humaines, corticales dérivées de cellules souches humaines, d'aller donc à un niveau supérieur de la caractérisation physiologique, disons, de ces cellules. Donc tout ça pour dire que je crois qu'on en est à une preuve de principe, on est par contre loin encore de la réparation. Maintenant, ça c'est pour rester prudent, mais d'un autre côté, vous auriez dit à un biologiste du développement neural lambda, comme moi, il y a 10 ans, que ceci allait marcher, j'aurais dit c'est pas possible le développement, ça s'arrête à la naissance ou quelques jours après, et chez l'adulte il se passe plus rien. Ben, ceci indique quand même qu'il peut se passer pas mal de choses. Ça, je crois que c'est une leçon très intéressante et sur laquelle je vais pouvoir revenir maintenant également en vous parlant du dernier chapitre, si je puis dire, et qui sont nos efforts pour modéliser les aspects plus tardifs du développement cortical humain en utilisant la même approche de transplantation, mais cette fois-ci avec des cellules corticales humaines générées dans la boîte de culture. Donc le schéma, le modus operandi est le même. Dans la boîte de culture, on part de cellules souches pluripotentes humaines, on les différencie en cellules corticales, on les transplante dans des souriceaux nouveau-nés, ici en l'occurrence d'une souche sévèrement immunodéprimée, ils n'ont plus de lymphocytes B, lymphocytes T, donc ils ne vont pas rejeter le greffon, c'est absolument essentiel. Donc l'idée, c'est qu'on va obtenir des chimères. Ces chimères, jusqu'à quel point sont-elles chimériques? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Au départ, on s'est dit que ces chimères étaient finalement peut-être pas si terribles que ça, parce qu'en regardant, par exemple, ici, trois semaines après la transplantation, vous voyez que les neurones transplantés, ils ne ressemblent pas à grand-chose, à peine à des neurones en migration, leurs dendrites sont extrêmement simples, quelques axones sont retrouvés en sous-cortical, mais de nouveau, il n'y a pas beaucoup de foule au balcon. Première interprétation de ces données, quand on transplante ces cellules corticales humaines, soit elles n'ont pas été spécifiées suffisamment in vitro, soit elles sont dans un environnement, en l'occurrence un cerveau de souris, qui est tellement artificiel qu'elles sont bloquées finalement dans ce processus aberrant. Autre possibilité, ces neurones humains suivent la ligne de temps qui est propre à leur espèce, et donc quand on regarde après 3 semaines, évidemment on a que quelques axones et quelques dendrites et pas grand chose d'autre, et donc vous aurez compris qu'évidemment la bonne réponse c'est la deuxième, parce que si on est suffisamment patient et qu'on regarde par exemple 6 mois après la transplantation, voilà à quoi ressemblent les cibles sous-corticales. Il y a cette fois-ci plein d'axones humains très branchés qui ont l'air beaucoup plus matures. Tout ça peut être quantifié, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous illustrer que, de nouveau, ceci ne sont pas les meilleurs cas qu'on a trouvés, mais c'est vraiment quelque chose de robuste qu'on observe dans à peu près tous les animaux. Et d'autre part, ça c'est peut-être le plus frappant, en tout cas le plus joli pour ce qui est des dendrites. Voilà les dendrites après 3 semaines, après 2 mois, après 6 mois, après 9 mois. Donc ce n'est qu'après 9 mois, finalement, on peut commencer à se dire que les dendrites de certains des neurones transplantés commencent à ressembler aux dendrites de neurones pyramidaux matures. Vous vous souviendrez que je vous en ai montré un qui ressemblait très fort à ça, d'une cellule de souris, c'était après 3 semaines. Donc je crois que c'est une illustration donc que le profil, plus exactement que la vitesse de maturation des neurones, non seulement est spécifique d'espèce, mais qu'elle semble en fait fort intrinsèque de la cellule, puisqu'on est ici dans un cortex d'une espèce, et ce neurone suit l'horloge de son espèce à lui. Et je crois que c'est important de suivre cette courbe, parce que je crois que c'est, même si ce n'est pas définitif, hein, on peut continuer à dire que tout ça est lent simplement parce que c'est artificiel, mais de nouveau, c'est frappant évidemment que la timeline est semblable à celle qu'on pourrait observer in vivo. Et de fait, ce n'est qu'après ces nombreux mois qu'on commence à observer le long de ces dendrites, comme vous le voyez ici, des épines dendritiques suggérant fortement une synaptogénèse, en l'occurrence avec l'hôte, puisque de l'autre côté des épines, on ne voit pas de GFP, donc c'est a priori des synapses de l'hôte. Et ça, on a pu le démontrer par électrophysiologie. Donc si on prépare des tranches à partir de telles souris et que l'on réalise des expériences de patch clamp dans de tels neurones identifiés par la GFP, et qu'ici, en l'occurrence, cette expérience, on stimule à distance dans la tranche, a priori essentiellement des neurones de souris, eh bien, on va stimuler les neurones humains, donc suggérant qu'il y a en tout cas au moins une synapse entre les neurones hôtes et le neurone transplanté. Mais qu'en même temps, donc, cette maturation suit cet aspect lent. Alors, pourquoi j'insiste tout le temps sur cette lenteur? On va dire, qu'est-ce que ça a si d'intéressant que ce développement soit lent? Finalement, ça veut dire que le moindre étudiant au postdoc qui rejoint mon laboratoire en a pour 15 ans pour réaliser 3 expériences. Bon entendeur. Non, c'est pas vrai. Mais... Enfin, si, c'est vrai. Mais... Non, c'est vrai, c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème aussi translationnel pour utiliser ces cellules en clinique, etc. Comment est-ce qu'on va faire? Bon. Mais néanmoins, pour revenir à notre dada, on va dire, et à l'évolution du cerveau humain, je crois que ça rappelle quelque chose de très intéressant que moi-même je ne connaissais pas finalement il y a quelques années, et qui est la notion de néothénie de synapse. Néothénie, c'est quoi? C'est la rétention de traits juvéniles dans un organisme qui est plus mature, et en l'occurrence, à la fois des études anatomiques et des études transcriptomiques, en comparant le cortex préfrontal humain et le cortex préfrontal de chimpanzé, ont montré de façon, je trouve, assez convaincante que le développement des synapses est profondément retardé, profondément néothénique dans notre espèce, d'une façon qui n'est pas expliquée, on va dire, par la durée de gestation, la durée de maturation du reste du corps ou la longévité de l'individu, puisque le gros des synapses est généré et le pruning s'est également déroulé après quelques mois chez le chimpanzé, et qu'il met plus de 15 ans dans notre espèce. Oui.
Je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait, ou pensez faire, une lésion aussi pour modifier l'environnement, accélérer finalement ce processus-là ou pas?
Oui, c'est une bonne question. Donc ceci, c'est néonatal. Dans un instant, je vais vous parler de ce qu'on a obtenu après lésion dans l'adulte, et ça ne va pas répondre tout à fait à la question, mais un petit peu quand même. Voilà, donc, et bien sûr, cette néothénie de synapse, ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ça reste une spéculation, mais beaucoup de biologistes l'ont proposé. Ça pourrait être une spécificité humaine, puisque ça permet au cortex du petit humain d'être davantage sensible à l'environnement extérieur, voire à la culture, même si de nos jours, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la culture, dans l'environnement extérieur, soit, par rapport à d'autres espèces. Voilà. Bon, bien sûr, ça, c'est spéculatif, mais je crois quand même que c'est ça qui rend assez excitant d'essayer d'étudier ça, puisque ce que ces données suggèrent, c'est que si ceci reflète le programme néothénique spécifique de l'espèce humaine, eh bien, il est là-dedans. Il est dans ces neurones. Il y a quelque chose qui se passe dans ces neurones et qui fait qu'il développe ces synapses en 9 mois plutôt qu'en quelques jours. Et pour étudier ça, je vous montre quelques données là, plus récentes, que j'ai rassemblé vite fait. On a essayé d'une part d'augmenter l'efficacité de la transplantation. Vous voyez ici des exemples, on a modifié les méthodes, enfin peu importe, mais on commence à obtenir, ça reste difficile, mais on commence à obtenir dans les bons cas du cortex cérébral de souris qui, comme vous le voyez, est vraiment littéralement truffé de neurones humains bien identifiables les uns par rapport aux autres. Et vous en voyez un ici qu'on a patché et dont on a en même temps pu reconstruire la morphologie, et vous voyez que les épines de ce neurone-là Moi, j'ai très envie quand même de considérer, certes, qu'elles ont l'air immatures, mais qu'elles ressemblent beaucoup, du fait de leur taille, aux épines que l'on dit humaines, puisque la taille, justement, des épines de neurones pyramidaux humains semble disproportionnée, disons, par rapport à celle d'autres espèces. Bon, bien sûr, ce n'est qu'un cas ici, mais en tout cas, ça montre, je dirais, qu'avec cette démarche, où on peut aussi, bien sûr, pas seulement rendre ces cellules vertes, mais on peut les infecter avec, les transfecter, enfin les infecter et les transduire avec des outils optogénétiques, avec des outils de physiologie calcique, etc. On peut commencer à poser maintenant la question des propriétés physiologiques de ces cellules et aussi des cellules qui sont autour et qui pourquoi pas, pourraient elles aussi avoir été influencées par la présence au long cours, hein, puisqu'on est à 8 mois, ici c'est des souris de 8 mois, au long cours de ces neurones encore en développement. Et ceci, c'est juste voilà, pour vous dire que ce système devient maintenant, je crois, assez robuste pour qu'on puisse commencer à faire de la biologie. Donc ici, c'est une expérience toute simple, où on a fait c'est toute une série de constantes, simplement des propriétés intrinsèques des neurones. Et en gros, ici, c'est de plus en plus immature et on va de plus en plus vers le mature ici. Vous voyez en gris et en noir les données de souris, donc où les neurones juvéniles enregistrés sont dans cette aire. Et puis, à mesure qu'ils deviennent adultes, ben, par exemple, leur résistance diminue. Et vous voyez les données des neurones humains à 5 mois et à 9 mois post-transplantation. Donc, vous voyez la même tendance, mais cela dit, même après 9-10 mois, on n'est pas encore à l'équivalent des neurones adultes. Je trouve que ces données sont encourageantes parce qu'elles montrent bien qu'il y a un shift. Et donc, ces neurones n'ont pas l'air bloqués dans un stade de maturation fonctionnelle particulier et suivent finalement la même tendance que les neurones hôtes. Et ici, en l'occurrence, on regarde quand même des propriétés qui sont déjà beaucoup plus fonctionnelles. Donc, on est en train de regarder maintenant d'autres choses comme les courants synaptiques, la capacité à générer de la LTP, etc. Et voir en quelle mesure. Comment ?
La souris vieillit.
Ah oui, bien sûr, la souris vieillit. Oui, heureusement pour elle. Que dis-tu ? Ah, je pense qu'on devrait inventer une technique pour reprendre ces neurones et les mettre dans une jeune souris pour arriver à... Absolument. Donc, ça, c'est très clair hein, que les profils électrophysiologiques, que ce soit dans notre labo ou d'autres labos, de neurones les plus matures obtenus, restent, quand on les montre à n'importe quel électrophysiologiste habitué à la souris ou au rat, très immatures. C'est très clair. Oui.
Ouais. La question bête, c'est de se dire, et si on mettait des neurones de souris dans un cerveau humain ?
Oui.
Alors, peut-être pas dans un cerveau humain, mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans un cerveau de primate lésé mettre des neurones d'une espèce
plus rapide ?
Oui.
Ouais. C'est une excellente suggestion. Voilà, vous n'êtes pas le premier à la faire, on aimerait bien faire cette expérience. Le problème, c'est qu'il faut avoir des primates à transplanter sous la main, ce qui n'est pas facile. On s'est dit, on pourrait faire souris rat, mais cela dit, la maturation n'est pas très différente. Mais il y a des gens qui sont amusés à faire ça, cela dit, par rapport à la longévité des neurones, puisque si je me souviens bien, oui, les rats vivent plus vieux, et donc par exemple, les cellules de Purkinje dégénèrent plus vite chez la souris, avec l'âge, et si on les transplante chez le rat, elles dégénèrent moins vite. C'est un papier comme ça. Donc on pourrait imaginer, sur le plan développemental, une expérience équivalente. Il faut qu'on trouve le bon modèle, le furet peut-être. Souris chez le furet, par exemple, pourrait être une façon intéressante de le faire et de voir dans quelle mesure on arrive à quelque chose.
Ouais. Et quid des inhibiteurs ?
Des inhibiteurs de ?
Des neuroinhibiteurs.
Ok, neuroinhibiteurs. Bien sûr, oui. Donc c'est vrai qu'on est très 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 pyramidocentrique ici. On peut générer les neurones inhibiteurs, hein, les interneurones, dans la boîte de culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus difficile à faire que les neurones pyramidaux, parce que ce n'est pas strictement par défaut. Il faut rajouter en fait des morphogènes ventralisateurs, Sonic Hedgehog par exemple. Et de nouveau, c'est le même problème que pour faire du cortex frontal. Il faut mettre la bonne dose au bon moment pour ne pas transformer ces cellules en quelque chose qui n'a rien à voir. Donc il y a deux groupes en particulier qui sont vraiment très très avancés par rapport à nous là-dedans. Le groupe d'Arnold Krickstein et celui de Lorenz Studer et Stuart Anderson. Mais même dans ce cas-là, ils doivent faxer les cellules avec des rapporteurs génétiques pour enrichir. Mais cela dit, pour revenir à votre question, ils ont transplanté les neurones, ils n'ont pas autant de manip que nous, mais ils en ont quelques-unes, et ces neurones sont super néoténiques et sont en fait encore plus lents que les neurones pyramidaux, ce qui est attendu des interneurones humains. C'est-à-dire que les profils électrophysiologiques qui sont parvenus à obtenir après 6 mois, 9 mois sont vraiment extrêmement immatures, même par rapport aux pyramidaux humains. Voilà. Une des questions intéressantes, évidemment, par rapport aux interneurones, une des raisons pour lesquelles on aimerait bien faire ça d'ailleurs, mais je pense qu'ils sont en train de le faire aussi, donc c'est toujours un peu difficile, mais c'est que, comme vous le savez, les périodes critiques sont bien sûr dépendantes des neurones pyramidaux, ça c'est clair, puisque c'est quand même eux qui font le gros du business, mais néanmoins, sous un contrôle en amont des interneurones, il y a plein de très belles expériences chez le rongeur de chiffres de périodes critiques avec les interneurones de souris, donc il y a une vraie question intéressante et qui est-ce que si on en transplante suffisamment, la période critique du cortex visuel pourrait devenir, entre guillemets, humaine en mettant suffisamment d'interneurones humains dedans. Voilà. Mais donc là, la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de neurones. Par contre, c'est plus facile de les avoir dans le cortex, puisque ces neurones ont des propriétés migratoires qui sont infiniment plus riches que celles des pyramidaux. Et donc, donc in fine, ces manips vont peut-être mieux marcher finalement que celles qu'on fait. Voilà. Mais ça reste ouvert aujourd'hui. Mais c'est clair que c'est une question tout à fait fascinante. Voilà, donc, illustration de l'allélotélie fonctionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant dans un autre paradigme ? Le paradigme dont on a parlé tout à l'heure, celui des cellules, d'animaux adultes ou juvéniles que l'on laisse et dans lequel on va transplanter des cellules, cette fois-ci corticales humaines, et puis attendre et poser les mêmes questions que ce que je vous ai dit tout à l'heure, et où donc de nouveau il y a une lésion, et en gros, on observe la même chose. C'est-à-dire que voilà les transplants. Ici, en l'occurrence, après une lésion d'aspiration, où les neurones humains ont en gros peuplé le trou qu'on avait fait dans le cortex occipital. Ces neurones présentent un certain nombre de marqueurs de différenciation canonique. Ils envoient plein d'axones. On est 6 mois post-transplantation. Et donc, je crois que ça répond en partie à la question que vous posiez tout à l'heure. Parce qu'à ma grande surprise, on voit à peu près autant d'axones. En tout cas, on voit aussi rapidement la pousse axonale dans ce cortex adulte après transplantation, après 8 semaines, qu'après transplantation à la naissance. Alors qu'à la naissance, on pourrait se dire une partie quand même du cerveau reste permissif / instructif à la croissance d'une série d'axones qui sont encore en train de pousser. À 8 semaines, il ne reste plus grand-chose. De nouveau, la lésion est absolument nécessaire. S'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de pousse axonale, mais la vitesse de croissance est peut-être bien la même. Oui.
C'est difficile à évaluer, mais est-ce que vous observez une différence en termes de taux de survie et d'intégration
chez l'adulte lésé?
Oui, entre les non-adultes et les adultes lésés, les cellules transplantées.
Oui, c'est effectivement difficile à évaluer. Ça marche un peu moins bien dans l'adulte lésé, mais il y a d'autres trucs. Hein. Je veux dire, la lésion elle-même et l'anesthésie fait qu'on perd des animaux plus facilement que chez le nouveau-né, où en gros c'est beaucoup plus standardisé. Il y a peut-être d'autres raisons que purement biologiques, disons. Mais globalement, le taux de succès est assez équivalent. Hein, c'est 3 quarts, 4 cinquièmes des animaux.
Je ne parlais pas d'animaux, je parlais des cellules transplantées. Mm-hmm. Le taux de survie des cellules transplantées.
Ah, combien de cellules? Ok, oui. Alors ça, c'est encore plus difficile à évaluer. Et j'ai pas d'idée. Parce que finalement, en particulier les cellules humaines, comme j'ai dit, ce sont essentiellement des progéniteurs qu'on transplante. Ils restent actifs mitotiques pendant 2-3 mois, et puis ils s'arrêtent. Hein. Donc à 6 mois, il n'y a plus de progéniteurs. Donc ce n'est pas des tumeurs. Mais néanmoins, voilà, on continue à avoir des cellules. Donc c'est très difficile d'évaluer quel est le taux de mort cellulaire, etc. Tout ce que je dirais, c'est qu'il y a relativement peu de pertes dans les semaines qui suivent. Donc en tout cas, dans les semaines qui suivent, il n'y a pas une mort cellulaire massive. Ça, je pense qu'on l'aurait vu. Par contre, peut-être que dans le jour de la transplantation, là, il va y avoir un tri quand même des cellules qui sont capables de rester et puis d'autres qui n'y parviennent pas. Mais quantitativement, je n'ai aucune idée de ce que ça représente. OK ? Quel est le profil de ces projections ? Eh bien, même chose que ce que je vous ai montré pour les cellules de souris. L'essentiel de ces cellules transplantées, qui ont par ailleurs de nouveau une identité moléculaire visuelle, dans les transplants visuels, montre des projections d'ordre visuel. Dans les transplants lésions motrices, très très peu de projections sous-corticales. Same take-home message que pour les cellules de souris, de nouveau. Et peut-être qu'on va y arriver plus facilement avec les cellules humaines, parce qu'on a plus de fenêtres de temps. L'un des défis maintenant, c'est de changer l'identité d'air des cellules avant transplantation, et puis de voir ce qu'elles sont capables de donner. Ces cellules sont-elles fonctionnelles? Ici, on a réalisé des expériences de patch clamp ex vivo, comme ce que je vous ai montré pour les transplantations néonatales, et on observe, avec un taux de succès qui est équivalent, de nouveau, des indications que la stimulation de la tranche induit une stimulation des cellules humaines. Donc il y a un certain degré de connectivité. De nouveau, de nombreux mois après la transplantation, ici 10 mois après la transplantation, le degré de maturité de ces neurones n'est pas différent de ceux qui ont été transplantés chez le nouveau-né. Donc de nouveau, c'est comme si cette horloge était assez insensible aux conditions de transplantation. Bien sûr, est-ce que cette connectivité peut avoir un impact fonctionnel, de réparation, etc. Ça, je pense qu'il faut rester agnostique à ce stade et continuer les expériences et l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en tout cas, il y a des synapses. Ça, on peut donc continuer à travailler dans ce sens. Parce que s'il n'y en avait pas, évidemment, à ce moment-là, il n'y aurait pas de substrat pour la réparation. Je vais conclure par deux, trois diapositives d'un travail qu'on vient de terminer, là, qui va bientôt être publié, et qui vous illustre finalement que ces modèles peuvent peut-être même, et j'avoue que j'étais très sceptique quand on a démarré ce projet, qui est une collaboration avec le laboratoire de Bart De Strooper au VIB à Leuven, donc qui m'a invité à Leuven en fait pour qu'on fasse toutes ces expériences ensemble. Donc c'est un laboratoire qui est expert dans la maladie d'Alzheimer. Alors bon, la maladie d'Alzheimer, vous la connaissez autant ou mieux que moi, mais donc elle apparaît évidemment relativement tardivement, hein, dans les 4e, 5e, 6e, 7e décades. Elle touche quand même avant tout les neurones pyramidaux, caractérisés par les plaques amyloïdes, par la dégénérescence des fibrilles, par de l'astrogliose et par une profonde perte des synapses et des neurones. C'est quand même la première pathological feature d'un cerveau d'autopsie d'Alzheimer, c'est qu'il manque des neurones. Or, dans les modèles de souris communément utilisés, qui sont typiquement essayent de mimer les formes génétiques d'Alzheimer, on surexprime l'APP, on mute la presénéline, on n'observe pas de dégénérescence neurofibrillaire, en tout cas de ces fameux tangles. Bon, je ne connais pas quelle est la traduction française d'ailleurs. Personne apparemment. Bon. Et on observe très peu de pertes neuronales. Et ça reste un paradoxe depuis longtemps. C'est quelque chose que je connaissais vaguement, mais c'est Bart De Strooper qui a attiré notre attention là-dessus. Et puis, deuxième chose, alors pour cette raison, bien sûr, quand les technologies IPS ont commencé à sortir depuis 4-5 ans, une série de groupes ont commencé à essayer de modéliser in vitro, en partant de cas sporadiques ou génétiques de patients Alzheimer, etc. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de très clair qui en est sorti. Et en particulier parce que de toute façon, dans la boîte de culture, d'une part, il n'y a pas d'astrogliose, il n'y a pas de plaque, et il y a une limitation évidemment du long terme. Et si on se dit qu'il faut peut-être plusieurs années pour arriver à mimer quelque chose, c'est très difficile d'imaginer ça dans une boîte de culture, même si, on peut en discuter plus tard, on peut imaginer des approches, il y a des groupes qui essayent de faire ça, pour vieillir artificiellement les neurones et ainsi peut-être pouvoir mimer de telles maladies neurodégénératives. Mais donc la question qu'on s'est posée ici, c'est de nouveau une question très simple de preuve de principe. On est parti non pas de neurones Alzheimer, mais de cellules pluripotentes humaines contrôle, qui a priori n'ont rien de spécial, on a pris trois lignées différentes. On les a différenciées en cellules corticales, comme je vous l'ai indiqué, et puis on a fait les transplantations, comme je vous l'ai indiqué, si ce n'est qu'on l'a fait dans deux populations de cellules de souris différentes, soit des souris contrôle, immunodéprimées comme je vous l'ai décrite, soit les mêmes souris immunodéprimées mais qu'on a croisées avec les mutants APPPS1-21 qui sont nouveaux dans le domaine, considérés comme les modèles qui développent le plus rapidement des plaques amyloïdes chez la souris. Et on s'est posé la question de ce qui se passe. Je vais aller assez vite, mais pour résumer, d'une part, donc, on observe de nouveau des transplants, des neurones en dehors des transplants. Bien sûr, dans le cas des souris APPPS1, il y a des plaques qui sont formées donc, par les cellules de souris, mais qui, comme vous le voyez, ça c'est important pour la suite, se retrouvent aussi au sein des cellules transplantées dans leur, comment dirais-je, dans leur environnement immédiat. Même chose pour celle de l'astrogliose, qui se développe également dans le transplant autour des cellules neuronales humaines. On est ici donc 4 mois après la transplantation. Si on observe d'autres caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, par exemple la présence de formes phosphorylées de taux pathologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas bien moi-même d'ailleurs, mais qui sont pathognomoniques de la maladie, on les observe dans les neurones humains. Et dernier aspect, même en microscopie électronique, qui a été très utile pour cette analyse, en fait, on observe donc non seulement des plaques, mais des signes de dégénérescence fibrillaire, en particulier de neurite dystrophique, même si, de façon intéressante, on n'a pas pu observer, alors qu'on a regardé ça avec Jean-Pierre Brion, un de nos voisins de palier, qui est un des experts mondiaux du domaine, de tangle proprement dit. Par contre, ce qu'on a observé, là je vous montre une dia pour commencer, pour vous l'illustrer, ce qu'on a observé, c'est que dans la vicinité des plaques, on perd les neurones humains après 6 mois après transplantation, ce qui n'est pas le cas plus tôt au cours de la transplantation. C'est ce que vous avez marqué ici autrement. Oups, c'est des données renversantes. Donc, voilà les neurones humains dans les cellules, dans les souris contrôles. Les neurones humains transplantés à la vicinité des plaques, vous voyez qu'en fait, dans ce cas-ci en particulier, on a vraiment du mal à retrouver des neurones au-delà de 6 mois post-transplantation. Et voici ici 2 contrôles très importants. D'une part, en dehors du transplant dans les souris Alzheimer, on continue à observer des neurones. Il y a un certain degré de perte neuronale, mais il est très très subtil. En fait, ça me rappelle les souris microcéphales dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a un petit phénotype, mais qui est tellement subtil qu'on a du mal à l'étudier. Et ici, on a fait une autre expérience qui a consisté à transplanter des cellules de souris post-ES, donc dans les mêmes conditions que les cellules humaines, et on n'observe pas de perte neuronale non plus. Donc, c'est ce qui vous est quantifié ici, et on voit que cette perte est graduelle. On voit rien, en fait, à 2 mois, et ça s'empire avec l'âge, et le maximum est obtenu après 9 mois post-transplantation, qui n'est pas indiqué ici. Donc, ceci suggère finalement un petit peu comme ce que je vous ai montré pour l'aspect mélamicrocéphalie, qu'il y a peut-être des aspects spécifiques d'espèces, en l'occurrence de la sensibilité des neurones humains à la pathologie Alzheimer. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la physiopathologie d'Alzheimer? Sans doute que Ward Stroper vous donnerait une grande leçon là-dessus. En ce qui me concerne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que ça indique de nouveau l'intérêt de ces approches, en l'occurrence des approches chimériques, pour étudier des aspects même relativement tardif de la vie des neurones. Bien sûr, de nouveau, on peut arguer que tout ceci est très artificiel, que ces neurones sont encore en développement, puisque je vous ai dit qu'à ce stade-là, ils sont encore très immatures. Donc, qu'est-ce que c'est que pour une maladie d'Alzheimer où on regarde des neurones qui sont en train de faire leur synapse? J'accepte toutes ces critiques, mais néanmoins, je crois que c'est un modèle expérimental qui est assez intéressant, en tout cas dans le domaine de l'Alzheimer, pour peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive à ces neurones à mesure qu'ils sont perdus ici. Et est-ce que ça rappelle ou non ce qui se passe dans le cerveau des patients? Et là, on a peut-être un modèle expérimental assez novateur, complémentaire à ceux qui existent par ailleurs. Voilà. Donc, je vais arrêter là et donc conclure et vous rappeler donc j'espère vous avoir convaincu qu'à partir de cellules souches pluripotentes, humaines ou de souris, on peut récapituler une partie, en tout cas, des aspects temporels et régionaux du développement du cortex. Donc on peut appliquer ça à la fois pour gagner de la connaissance sur la corticogénèse humaine et peut-être aussi sur ces pathologies spécifiques, et que ça permet de générer des cellules qui sont transplantables et qui, en tout cas chez la souris, sont capables de s'intégrer dans une certaine mesure sur le plan fonctionnel, à la fois au cours du développement, après la lésion, et même peut-être de mimer certains aspects de la vie tardive, on va dire, des neurones humains, en gardant en tête, évidemment, comme le dirait le mieux sans doute mon compatriote René Magritte, que les modèles, ça n'est jamais que des modèles, que ce soit en art ou en science. Donc c'est un modèle parmi d'autres, et je crois qu'une des clés, de nouveau, pour savoir où on en sera dans le futur, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui les utilisent, et en particulier des gens qui n'y connaissent rien aux cellules pluripotentes, et puis on verra ce que l'avenir nous réservera. Je terminerai peut-être en citant quand même le nom de quelques-uns des nombreux collaborateurs dont le rôle a été absolument clé pour générer tout ceci, en particulier Ira Espuni Camacho, Kimo Mikkelsen et Anya H., 3 postdocs dans le laboratoire qui ont généré beaucoup des données que je vous ai montrées, ainsi qu'un certain nombre de membres du labo, et puis aussi nos nombreux collaborateurs étrangers. J'ai déjà cité à Figaïa de Poitiers et Barre de Strooper. Et les autres, vous les voyez, et j'en finis là, et j'espère que peut-être vous avez encore deux, trois questions. Merci pour votre attention, en tout cas. Merci.